Chapitre 60. Muni du strict nécessaire, un sac de toile contenant les vivres et les balles, trois gourdes qu'ils avaient remplies au jerrycan, ils marchaient depuis des heures sur la plaine sans limite. La température continuait de grimper, mais la chaleur restait pour l'instant supportable. Estimant les nuits suffisamment douces pour se passer de couverture, ils avaient emporté avec eux leur manteau ou leur veste qu'ils portaient sur l'épaule, hormis Khadija vêtue de sa seule robe. Ils disposaient pour toute arme des deux revolvers de Moram, du fusil d'assaut, du poignard et de la réserve de balles de Wolf, Solman ayant laissé son pistolet dans le bunker de Tours. Des hordes d'animaux surgissaient des ruines ou des rares bosquets pour se lancer au grand galop sur l'étendue d'herbe et martelaient la terre comme une peau de tambour. Les insectes poursuivaient leur œuvre de transformation avec zèle. De temps à autre, Solman et ses compagnons voyaient fondre sur eux des nuées bourdonnantes dont, pas davantage que les hordes, ils ne savaient si elles présentaient un danger. Ils s'immobilisaient et attendaient pour reprendre leur marche que l'essaim se soit dispersé dans la lumière du soleil. D'innombrables mares abandonnées par les tempêtes des jours précédents, tendues sous les herbes, jonchaient la piste reconnaissable à ses accotements hérissés de buissons. Solman s'efforçait de suivre l'allure. Lorsque l'envie se faisait insistante de s'arrêter, de s'allonger, de détendre enfin cette jambe gauche, qui n'était plus qu'une brûlure lancinante, il regardait Ismaïl qui avançait sans proférer la moindre plainte, les yeux rivés au sol, les épaules tombantes, la foulée menue et rasante. Il observait également Wolf. Ne décelait pas l'ombre d'une claudication dans son allure régulière. Essayait alors de reprendre empire sur lui-même, d'occulter sa souffrance. Khadija venait parfois lui prendre la main, l'encourager d'un regard, d'un sourire, d'une moue. Il pouvait lire en elle désormais aussi clairement que dans une eau de source. Elle conservait encore quelques-uns de ses privilèges de sainte, une vigueur et une résistance supérieures à celles des hommes, une somme de connaissances inégalables, mais, en forçant le barrage de ses défenses immunitaires, elle avait roulé sur la pente fatale du temps. Elle avait franchi la porte qui s'ouvrait sur les cycles. Elle évoluait avec la légèreté de quelqu'un qui vient d'être délivré d'un envoûtement, d'une malédiction. Sa nouvelle vie lui donnait une beauté simple, rayonnante, charnelle. C'était ce chant-là que Solman avait capté en elle, la première fois qu'ils s'étaient rencontrés dans le marais du littoral méditerranéen. Un chant qui avait franchi les murailles dressées par les scato pour raconter un monde ancien d'amour et de consolation. Le verbe dont parlait Raïma avait échoué à extirper la mémoire antérieure de ceux qu'il avait choisis pour juste. Si, selon les paroles d'Ismaïl, les hommes, ces animaux évolués, gardaient en eux des traces de leur nature primitive, les saints restaient piqués dans la trame humaine. Aucune évolution ne pouvait s'établir sur le vide. Khadija, l'envoyée de Benjamin, avait parcouru le chemin menant aux hommes, à elle-même par conséquent. Mais comment réagiraient ses frères et sœurs? Qu'en serait-il de ces 12 tribus qui, pendant plus d'un siècle, avaient vécu en totale autarcie, terrées dans leurs abris, dans leur immense savoir et dans le mépris souverain d'une humanité qu'ils avaient répudiée, condamnée à l'oubli?
On s'arrête un peu, proposa Moram.
Jamais sa voix n'avait paru aussi agréable à Solman.
Pas de refus, souffla Ismaïl.
Wolf examina brièvement les environs avant de poser le sac de vivres au sol. C'est alors seulement que Solman discerna le léger rictus qui lui déformait la lèvre supérieure et trahissait sa souffrance.
« J'ai pas l'impression qu'on ait progressé des masses !»
soupira Moram en se laissant tomber dans l'herbe.
« Une quinzaine de kilomètres, à mon avis, » précisa Wolf.
« À ce train-là, on ne sera pas en Île-de-France avant 2 jours. Il aurait peut-être mieux valu retourner à Tours, pour chercher un nouveau camion. » Cette putain de mécanique était plus gourmande que je ne le pensais. Ou alors, il y avait une fuite de gaz.
Ils burent et grignotèrent en silence. chassant les insectes qui, attirés par les odeurs, pullulaient autour d'eux. Le ciel n'avait pas recouvré son bleu habituel, comme s'il s'était vêtu de teintes nouvelles pour accompagner la métamorphose de la terre. Quelques pas plus loin, la surface d'un étang encerclé par les roseaux brillait comme une nappe d'or en fusion.
« Bizarre qu'on ne voit pas de moustiques, » lança Moram. « Avec cette chaleur, toute cette flotte. »
« Sans doute n'ont-ils pas leur place dans le nouvel ordre terrestre ?»
fit Ismaïl. « C'est pourtant pas le genre de bestiole dont on peut se débarrasser comme ça !» objecta le chauffeur en claquant des doigts.
« Il faut croire qu'ils ont trouvé leur prédateur naturel. Enfin, quand je dis « naturel », je pense qu'on leur a donné un sérieux coup de pouce.
« Vous voulez dire ?» Quelqu'un aurait trouvé le moyen d'éliminer ces seringues volantes.
D'un pan de sa chemise, Ismaïl essuya avec délicatesse les gouttes de sueur qui lui perlaient sur le front. Les autres transpiraient également, y compris Khadija, dont le haut de la robe était maculé d'auréoles sombres. Assise à côté de Solman, elle scrutait le ciel avec une attention soutenue, s'interrompant régulièrement pour lui lancer un regard à la fois tendre et perplexe. Il lisait en elle de la gratitude et de l'inquiétude. Elle découvrait, comme tous les prisonniers du temps, la peur de perdre ce qui donnait un prix à son existence. La peur de la séparation. La peur de l'oubli. Elle devrait apprendre à renoncer à la tentation du contrôle, de la possession. À s'abandonner à la puissance créatrice de Mère Nature. À se fondre dans l'éternité de l'éphémère. Solman l'enlaça par la taille et l'attira contre lui. Encore imprégnée de leurs odeurs, elle l'irradia d'une envie qui chassa sa fatigue et la douleur à sa jambe.
Les scientifiques de la Troisième Guerre mondiale ont modifié génétiquement les insectes et d'autres espèces, comme les anguilles, pour en faire des armes, dit Ismaïl. Mais contrairement aux armes traditionnelles, il leur était impossible d'en contrôler la prolifération. Ils ont donc créé un nouvel ordre, l'ordre génétiquement modifié. Il se peut fort bien que des insectes mutants soient devenus les prédateurs des moustiques. D'autres espèces disparaîtront, d'autres apparaîtront.
Les hommes semblent faire partie de celles qui sont condamnées à disparaître, gronda Moram.
D'une part, ce n'est peut-être pas une fatalité. D'autre part, ce n'est peut-être pas une injustice.
Ouais, mais moi j'ai une putain d'envie de vivre. Et ça me paraît injuste.
Moram se retint d'ajouter que Hora, la sourcière, était l'objet essentiel de sa putain d'envie de vivre. Mais il le pensa tellement fort que les autres n'eurent aucun mal à deviner sa pensée.
Nous sommes des hommes. Façonné par l'instinct de survie,
reprit Ismaïl, les sourcils froncés, la face hachée par les rides.
Nous n'avons donc pas le recul nécessaire pour considérer notre extinction avec sérénité. Pourtant, le soleil est condamné, cette terre est condamnée, nous sommes condamnés. Que cela se passe demain ou dans 5 millions d'années ne changera strictement rien à l'affaire.
« Ben si, » fit Moram. « Demain, ça ne me laisserait pas le temps de retrouver la femme que j'aime. »
« Nos désirs personnels comptent si peu, en regard de l'univers. »«
L'univers, pour l'instant, il tourne autour de moi. »
Le chauffeur désigna le ciel d'un mouvement de tête et poursuivit.
« Je sais bien que nous ne sommes que des grains de poussière par rapport à l'immensité de la création, mais bordel, c'est sûrement pas ça qui me fait battre le cœur. »
Ismaïl hocha la tête avec un sourire las.
Les pensées, les désirs individuels, ont-ils un quelconque effet sur notre environnement, sur notre univers? Voilà un mystère que nous n'avons jamais éclairci. La physique quantique nous apprend que l'observateur a une influence sur l'objet de son observation. Mais cette règle s'applique au monde des particules. De l'infiniment petit. Nous n'avons pas réussi à prouver qu'elle se rapporte au monde macroscopique.
Quand on a la tête et le cœur plein, Pas besoin de vouloir prouver quoi que ce soit, grogna Moram.
C'est peut-être ça la bonne définition. Les esprits et les cœurs vides ont besoin de se remplir pour se donner l'illusion d'exister. Se remplir de lois, de dogmes, de connaissances.
Wolf rangea les vivres dans le sac de toile, époussa sa chemise et se leva, donnant le signal du départ.
Au fait, c'est quoi votre vrai nom ?
Demanda avant de déplier sa grande carcasse Moram au vieil homme.
Quelle importance ? Répondit Ismaïl. Qui se souviendra de moi lorsque je serai redevenu poussière ?
Le crépuscule tomba alors que se profilait dans le lointain une masse sombre qui était selon toute probabilité la forêt de l'Île-de-France. Ils continuèrent de marcher jusqu'à ce qu'un voile noir se tende sur les rosaces mauves, or et rouge vif, qui embrasaient le ciel. Ils s'arrêtèrent quand l'obscurité, dense malgré le scintillement des étoiles, escamota les étendues d'eau enfouies sous la végétation, et rendit leur progression hasardeuse, dangereuse. Il régnait sur la plaine un silence profond, presque solennel, que ne parvenaient pas à briser les cris rauques des rapaces nocturnes, les hurlements des chiens sauvages et les coassements des grenouilles. L'impression dominante était celle d'un calme précédant les grands bouleversements. Khadija était sans doute la moins fatiguée du petit groupe. Les traits tirés de Moram, le rictus prononcé de Wolf, les rides creusées et l'allure voûtée d'Ismaïl révélaient une profonde lassitude. Solman s'écroula dans l'herbe, retenant à grand-peine ses larmes d'épuisement. Cependant, il suivit Khadija sans protester quand, à l'issue d'un dîner aussi frugal que rapidement expédié, elle le prit par la main et, sans un mot, l'entraîna vers un étang dont la surface sombre et lisse luisait en sourdine à la lueur ténue des étoiles. Wolf envisagea un moment de les suivre. Puis il y renonça. Il devait maintenant apprendre à combattre ses réflexes forgés par 18 années de vigilance, à laisser son fils se débrouiller seul. Sa vision lui montrait que Solman serait bientôt confronté à une épreuve dont son père serait exclu de la même façon que les circonstances les avaient tous les deux exclus de leur relation de sang. Le don était inscrit dans le mot d'honneur. Moram et Ismaïl avaient soulevé quelques heures plus tôt cette contradiction apparente entre les désirs individuels et l'ordre cosmique. Chez les donneurs, les aspirations individuelles étaient sacrifiées sur l'autel de l'intérêt collectif, au nom de cet ordre cosmique invisible dont ils n'étaient que les serviteurs, les rouages. Wolf avait égorgé la femme qu'il aimait pour consacrer son existence à la surveillance anonyme de son fils, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, comme s'il avait été le jouet d'une volonté supérieure et perverse. Solman serait bientôt invité à offrir sa vie pour la sauvegarde de l'espèce humaine. Mais, et Moram avait raison à ce sujet, rien ne pouvait empêcher le cœur de battre, de saigner, et le scorpiote souffrirait jusqu'à la fin des blessures incurables, physiques et morales, infligées par Mère Nature. Il accueillerait la mort comme une délivrance, comme une bénédiction. Mais avant, il lui fallait encore se détacher de Solman, trancher le dernier lien qui le rattachait au monde des hommes. Et la lame aiguisée de son poignard n'y suffirait pas. Khadija retira sa robe, l'étala sur les herbes et s'y allongea. Solman se dévêtit à son tour, s'étendit à son côté et frissonna malgré la tiédeur de l'air. La densité du silence estompait les coassements des grenouilles, les froissements d'ailes des rapaces en chasse, le frisli des herbes, le clapotis de l'eau. Les essences fleuries masquaient en partie l'âpre odeur de vase de l'étang. Comme dans la remorque, Solman abandonna l'initiative à Khadija. Ce fut elle qui vint à lui, qui se pencha sur lui et l'embrassa. Elle ne marqua aucune hésitation cette fois. Elle le caressa et le lécha sur tout le corps sans être secouée par les crises de rejet. Les yeux clos, il se laissa cajoler. Subjugué par son odeur, envoûté par la douceur de ses mains, de ses lèvres, de la pointe de ses seins, de son souffle, de ses cheveux. Comme Raïma, elle avait le pouvoir d'effacer sa fatigue et ses douleurs. Elle l'enduisit de sa sueur et de sa salive avec une attention de chatte sauvage, animée par la volonté de lui insuffler sa vitalité par tous les pores de sa peau. Il ne fut plus bientôt qu'un soc vibrant de désir. Incapable de se contenir plus longtemps, il se rua sur elle avec une fureur animale et l'étreignit avec une telle force qu'ils roulèrent enchevêtrés jusqu'au bord de l'étang. C'est à peine s'il se rendit compte que leurs jambes et leurs bassins basculaient dans l'eau, dans cette eau stagnante, empoisonnée par les anguilles, qui pouvaient exploiter la moindre égratignure pour le tuer. Il en prit conscience beaucoup plus tard quand, apaisé, étourdi, essoufflé, ils retournèrent près de leurs vêtements. De ses nombreuses morsures et griffures perlaient des gouttes de sang qui se diluaient en rigoles sombres sur son torse. « Je n'ai pas été très prudent, » murmura-t-il en examinant ses éraflures. « L'eau n'avait que l'embarras du choix pour m'empoisonner. Tu le regrettes ? De ne pas avoir été empoisonné ? D'avoir été imprudent ? » Il l'enlaça par la taille et la maintint pendant quelques secondes contre lui. « Est-ce qu'on peut regretter d'aimer quelqu'un ? » dit-il avec un sourire. « Est-ce que tu regrettes le choix que tu as fait ? » ?»« Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. » »« Et les autres, ils sont prêts à te suivre ?» Elle se détacha de lui et haussa les épaules. Des rougeurs et des écorchures marbraient sa peau claire. Le mouvement de ses seins raviva des braises de désir dans le bas-ventre de Solman. Je ne sais pas exactement pourquoi Benjamin m'a envoyé vers les hommes, ni pourquoi il a envoyé cette sœur avant moi. Je ne suis pas certaine que la tribu le sache elle-même. Tu n'as vraiment aucun souvenir d'Avanton ? Réveil dans la station de l'espace ? C'est comme un programme effacé. Je ne peux pas retrouver les informations précises, mais je garde une vague impression, comme une ombre. « Pourquoi est-ce que tu m'emmènes au lieu du rassemblement ?» Elle s'assit sur sa robe et joua pendant quelques instants avec les herbes ployées par la brise. « Il me semble que c'est ce qui doit arriver. » « Qui parle en ce moment, toi, ta tribu ou l'escato ?» Elle croisa les bras sur les jambes et posa le menton sur ses genoux avant de lever sur lui un regard hésitant, presque implorant. Le Verbe est tout-puissant. Même si je l'ai trahi, il peut très bien continuer de s'exprimer à travers moi. Et te manipuler. Elle se releva et glissa les mains sous les cheveux de Solman de chaque côté de son cou. Sa beauté prenait dans l'obscurité l'aspect attirant et trompeur d'une illusion, d'un piège des apparences. Les autres parlaient de libre arbitre hier, murmura-t-elle. « Rien ne t'oblige à te rendre au rassemblement. »« Qu'adviendra-t-il des derniers hommes si je n'y vais pas ?»« Je n'ai pas de réponse à cette... »« Oh, regarde !» Elle tendit le bras vers le ciel. Il tourna la tête et aperçut au-dessus d'eux des milliers de traînées scintillantes qui enluminaient la nuit comme une pluie de météores. Très proches les unes des autres, elles tombaient à la même allure en respectant les intervalles. L'aspect féerique de ce déploiement de lumière émerveilla Solman. Il lui rappelait certaines nuits d'été dans les massifs montagneux des Carpates ou des Alpes, où les aquariotes rassemblés dans le campement admiraient le ballet capricieux des étoiles filantes, tellement fugaces qu'ils se retiraient dans leur tente ou dans leur voiture en ayant l'impression d'avoir capturé un rêve. Ce soir, il assistait à un ballet qui n'avait rien de fugitif, ni de fantasque, mais qui respirait l'ordre, la cohérence, l'intelligence. « Benjamin, » chuchota Khadija.